Bonjour et bienvenue, Église la Bible parle, et là je parle vraiment au sens large, parce qu'on a des gens de la Bible parle qui nous viennent de la rive sud, non, de la rive nord de Montréal, bienvenue à nos invités, et bienvenue à vous qui nous écoutez aussi, si vous le voulez bien, on va ouvrir en prière. Alors merci Père éternel, ta parole est tellement précieuse Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses vraiment nous encourager Seigneur, pour ce dernier message sur l'Apocalypse Seigneur. Où ce qu'on va adresser la fin de l'histoire, mais en fait, c'est le début. C'est le début de la vraie histoire qu'on va parler, Seigneur. Que ça puisse être un encouragement que, peu importe où vous êtes, que vous viviez des difficultés, que vous sentez loin de Dieu, ou même si vous avez simplement juste besoin d'être encouragé, que, Seigneur, tu puisses vraiment bénir ta parole et ta parole seule, Seigneur. Alors, c'est dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Et donc, après cette longue série, nous terminons sur l'Apocalypse. Et le titre du message est « Un monde nouveau ». Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse 21. En fait, on pourrait tout lire l'Apocalypse 21 et une partie d'Apocalypse 22. Mais on va se limiter, sinon il n'y aura plus de message. Donc, Apocalypse 21. On va lire les versets 1 à 7. Donc, le titre du message, c'est « Un monde nouveau ». Je vous dis tout de suite, c'est un message qui va être riche. Ça va être du steak, mais vous êtes capable. Vous êtes capable. Puis, même si vous ne vous souvenez pas de tout, ben, ça va être sur Internet. Ça va être encore plus merveilleux. Sur ce, au verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et sera mon fils. Je vais aller au verset 22. Je n'y vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour s'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. Excusez-moi. C'est la fumée de la gloire qui... Vous savez, l'un des thèmes principaux de la Bible est l'exil et le retour à la maison. Faites juste penser à l'histoire du fils prodigue. Hein? Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire d'une humanité qui était loin de Dieu. Vous savez, nous étions faits pour le Jardin d'Éden. Et certains disent même que le Jardin d'Éden, c'était le premier temple. C'était le lieu où on rencontrait Dieu. Et on était fait pour le Jardin d'Éden. D'ailleurs, combien de gens aimeraient retourner dans le Jardin d'Éden? C'était notre maison. Puis c'est quoi une maison? Bien, une maison, c'est l'endroit qui nous convient vraiment bien. Parce que tes pantoufles sont là. Tu n'as pas besoin de te maquiller. Bon, ça ne m'arrive pas souvent, mais on est à l'aise. On est chez soi. C'est l'endroit qui comble nos désirs et nos besoins. C'est l'endroit, soyons honnêtes, où on est vraiment soi-même. Mais que s'est-il passé? Eh bien, la race humaine a voulu vivre sa vie comme elle l'entend. Et le résultat, c'est qu'on a été chassé loin de Dieu. Et on a perdu notre maison. Nous sommes en exil. Nous errons dans le désert de ce monde avec une soif que rien ne peut satisfaire. Nous portons tous en nous une sorte de mal du pays, un sentiment que les choses ne sont pas comme elles devraient l'être. Et on le voit dans les informations. Nous le ressentons dans nos propres vies, avec la maladie, l'injustice, la solitude et la mort. Et le philosophe Heidegger croyait que toute l'humanité était caractérisée par, je vais vous dire le mot, mais je vais m'en faire, c'est sûr, Unheilliket, qui veut dire par le mal du pays. Et ce mot est traduit, si on traduira en français, par étrangeté. Mais ce que ça signifie, c'est qu'on n'est pas à la maison. Que dans ce monde, on est étranger. Qu'on n'est pas à notre place. Et ce sentiment de ne pas être chez soi dans ce monde, ce sentiment d'exil, est que ce monde est contraire à nos besoins et nos désirs les plus profonds, au fond de nous. Et C.S. Lewis disait que si nous trouvons un désir en nous que ce monde ne peut pas combler, c'est que nous avons été faits pour un autre monde. Et notre culture répond à ce besoin de deux façons différentes, mais je vous pose la question, d'après vous, comment la culture répond à ce besoin? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Comment que la culture répond à ce besoin qu'on a, ce besoin étrange de dire on n'est pas dans le monde qu'on devrait être? Oui, on cherche en autre chose une maison. Ça peut être dans l'argent, dans la carrière, la réussite. Ça peut même être dans la famille. Ça peut être dans toutes sortes de choses qui prennent la place de Dieu, qui deviennent une idole. Mais j'aimerais tirer deux grandes lignes ici. Deux façons que notre culture tente de répondre à ce besoin. Soit par l'utopie. Ça, c'est l'idée que si nous travaillons assez fort, si nous avons la bonne technologie ou les bons politiciens, nous pouvons créer le paradis sur la terre. Soyons honnêtes, ça n'a pas marché. Ça a créé soit de la déception ou même de la tyrannie. Soit par le cynisme. Ça, c'est l'idée que ce monde et tout ce qu'il y a, bien, aussi bien en profiter avant que tout s'écroule. Mais la vision de l'Apocalypse rejette ces deux options-là. Elle nous propose une troisième voie. Un réalisme ancré dans l'espérance. Non pas l'espoir fragile, puis je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent pendant la COVID, tout ira bien. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Tout va bien aller. Ouais. Tout va bien aller. Non, ce n'est pas un espoir fragile comme ça. C'est comme wishful thinking. Je ne sais pas comment ça serait traduit en français. Wishful thinking. Bon, déjà que mon anglais n'est pas terrible. Mais ce n'est pas un espoir fondé sur une idée de positivité ou à force de se dire hey, « ça va bien aller, là, inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Mais c'est une espérance solide fondée sur celui qui est assis sur le trône et qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles et ses paroles sont certaines et véritables. » Cette vision-là nous présente une espérance qui n'est ni une utopie humaine, ni un cynisme désespéré. C'est une espérance ancrée non pas dans nos efforts, mais dans l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, il y a un poète qui a écrit, et c'est décourageant de lire ça, mais je vais vous partager pareil. Il y a un poète qui a écrit, « L'espérance est un radeau fragile sur un océan de désespoir. » Puis je ne vous ferai pas lever la main, mais il y en a beaucoup ici qui disent, « Moi, mon radeau prend l'eau. » Mais ce dimanche, la parole de Dieu nous offre non pas un radeau. Elle nous montre un port certain, une terre nouvelle et glorieuse. Vous savez, le chapitre 21 et 22, ce n'est pas la fuite de la réalité. C'est la destination finale de la réalité. C'est la conclusion de l'histoire du salut par Dieu. C'est le pourquoi derrière la croix, la finalité de la résurrection. Et donc, Jean nous donne un aperçu de la fin de l'histoire qui n'est pas une destruction, mais une reconstruction glorieuse. C'est une vision qui devrait changer la façon dont on vit présentement. Parce que ce que vous pensez de votre futur influence comment vous vivez présentement. Maintenant, explorons cette vision-là en trois points. Premier point, l'espérance ultime. un monde renouvelé sans larmes. Deuxième point, la réalité ultime, un Dieu présent et accessible. Et dernièrement, l'invitation ultime, un salut gratuit et accessible à tous. Donc, premier point, c'est l'espérance ultime, un monde renouvelé sans larmes. Et Jean commence par une déclaration stupéfiante, hein? Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Avez-vous remarqué ce qu'il ne dit pas? Il ne dit pas, « Ah, j'ai vu les âmes des justes s'envoler vers un ciel nébuleux. » Non, l'espérance chrétienne populaire est souvent une sorte de platonisme. Tu sais que notre âme est prisonnière de ce corps méchant et mauvais. Et le seul but, c'est de s'échapper de ce monde matériel pour rejoindre les esprits dans les lieux célestes. Non, le mot grec ici, pour nouveau, est le mot « kénos », qui signifie « nouveauté en qualité et en essence ». Il ne s'agit pas d'une création à partir de rien qui remplacerait l'ancienne, mais une transformation profonde de ce qui existe déjà. Pensez à la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus est apparu comme un fantôme? Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous prouver qu'il n'était pas un fantôme? Il a mangé. Savez-vous que dans le royaume de Dieu, vous allez manger? Il va avoir du vin? Oui, mon frère. Oui, tout à fait, il a montré ses cicatrices. Son corps ressuscité n'était pas complètement différent. Il porte encore les marques des clous, mais il était glorieusement transformé, capable de traverser les portes fermées tout en restant physique et tangible. Et de la même manière, la nouvelle création est sur le modèle de la résurrection, identifiable à l'ancienne, mais merveilleusement renouvelée. Pour ceux qui connaissent notre frère Jerry qui nous a quittés quelques mois déjà, mais on va le revoir. Vous savez quoi? On va le retrouver. Pas retrouver comme, « Hey, c'est plus du tout la même personne. » On va retrouver le bon Jerry, mais complètement glorifié. Maintenant, imaginez-vous un violon Stradivarius endommagé par le temps. Est-ce que le luthier qui le reçoit le jette en disant, « C'est plus bon à rien? » Non. Il va le restaurer méticuleusement, révélant encore une beauté plus grande. Ainsi, Dieu va transformer sa création. Jean évoque ce désir profond, cette nostalgie évoquée par les poètes et les philosophes d'un foyer, d'un corps, d'un monde que nous n'avons jamais réellement connu, mais que nous savons qu'on doit être fait pour ça. Et c'est pourquoi l'Évangile nous dit « ça arrive, ça s'en vient ». Et Dieu, pour que ça arrive, il doit restaurer d'abord notre relation avec lui, par la croix de Jésus-Christ, pour que, comme c'est dit, la demeure de Dieu soit avec les hommes, pour que Dieu puisse habiter réellement avec nous, il a fallu que la relation avec lui soit rétablie. Et quand la relation avec Dieu est rétablie, la relation entre nous est rétablie, et avec la création. Et Jean va ajouter un détail étrange. Et la mère n'était plus. D'après vous, pourquoi il n'y aurait plus de mère dans la nouvelle création? Et la mère n'était plus. Vous savez, pour nous, la mère, c'est quoi? Ça évoque quoi? Mon frère ici doit y penser, avec la tempête de neige qui s'en vient en plus. C'est à quoi vous pensez quand vous pensez à la mer? Les palmiers, le sable blanc. Bon, ça dépend ce que vous allez en vacances, hein? C'est pas toujours du sable blanc, mais bon. Mais dans l'Ancien Testament, et dans l'Apocalypse, la mer est le symbole du chaos, de l'origine du mal et le lieu d'où sort la bête dans Apocalypse 13. Dire « la mer n'était plus », c'est la manière poétique de dire tout ce qui menace, tout ce qui est chaotique, tout ce qui sépare, tout ce qui a apporté la mort et la souffrance sera définitivement banni. C'est l'éradication définitive du mal. Et c'est pourquoi le verset 4 est si puissant, hein? « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Ce n'est pas seulement une consolation, c'est un cri de victoire. Est-ce que vous le réalisez? Ce n'est pas seulement une tape dans le dos, là. Écoute, arrête de pleurer, ça va aller mieux. Non, c'est un cri de victoire, car les choses anciennes ne seront plus. Le deuil, les larmes, la douleur ne font pas partie du plan initial de Dieu. Ce sont des intrus, des conséquences de la chute, de notre rébellion contre lui, mais dans la nouvelle création, toutes ces mauvaises choses-là vont être éradiquées. Et cette promesse-là nous provient de Ésaïe 25:8, qui révèle quelque chose de profondément touchant. C'est Dieu lui-même, non pas un ange ou un serviteur céleste qui essuiera les larmes de nos yeux. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu ne nous empêche pas de pleurer dans cette vie, mais il nous promet, même dans cette vie d'ailleurs, et dans la prochaine, d'essuyer complètement les larmes lui-même. Réalisez-vous que Dieu est votre Père. C'est l'acte d'un Père consolateur. Et pourquoi? Parce que la cause même de ces larmes va être éradiquée. Le péché, la mort, le deuil, la douleur. Tout ce qui est une conséquence de la chute a disparu. Et beaucoup d'entre nous, puis je serai encore là pour lever la main, portons des chagrins que personne ne connaît. Des pertes anciennes dont nous ne parlons plus pour ne pas évoquer une vieille souffrance. Des blessures profondes que nous avons appris à cacher. Et cette promesse-là vous dit, Dieu connaît chaque larme, chaque deuil non résolu, chaque espoir déçu, chaque relation brisée, tout sera guéri. N'est-ce pas une promesse merveilleuse, ça? Nous, savez-vous quoi? Quand on souffre, là, quand on est déçu, on met ça sur le tapis en disant, ça va passer. On essaie de changer d'idée, on essaie de penser à autre chose. Mais Dieu, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu veut guérir ce qui nous a fait souffrir. Spurgeon nous racontait l'histoire d'une veuve endeuillée qui sanglotait. « Qui essuiera mes larmes maintenant? » Et le pasteur lui répondit, « Le même qui a recueilli toutes vos larmes dans une outre, psaume 56, 9, viendra lui-même les essuyer. » Pas un ange, pas votre pasteur, pas votre best buddy, Dieu, votre Père, le fera lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on n'oubliera pas notre histoire. Tu n'arriveras pas dans le ciel et ils vont faire un reset de ta mémoire. Là. Les théologiens parlent de transformation plutôt que d'amnésie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, transformation de nos souffrances et de nos douleurs, de nos larmes? Nos sacrifices, nos cicatrices seront transformées comme celles de Christ ressuscité en signe de victoire et non en source de douleur. On ne peut pas l'imaginer encore, hein? On peut juste avoir un aperçu de ça. Mais comment cette restauration-là est-elle possible? Parce que Jésus lui-même est le commencement de la nouvelle création, Apocalypse 3, 14. Sa résurrection est le premier jour de la nouvelle création. Vous et moi, pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes déjà dans la nouvelle création. C'est le déjà et le pas encore. On le vit déjà spirituellement, un jour on va le vivre pleinement à son retour. Vous savez, en ressuscitant, Jésus n'a pas abandonné son corps, il l'a glorifié. Il n'abandonnera pas non plus sa création, il va la glorifier. L'espérance d'un monde sans larmes est fondée sur la réalité de quoi? D'un tombeau vide. Mais quelle est la source de cette consolation parfaite? C'est la présence même de Dieu. Qui est mon deuxième point, la réalité ultime, un Dieu présent et accessible. Quand on pense souvent à l'avenir que Dieu nous prépare, quelle est la première chose qu'on s'imagine? Toi, plus tu y es, plus tu penses à ça. D'après vous. Quand on pense à l'année que Dieu nous prépare, c'est quoi la première chose que vous vous imaginez que ce monde-là va être? Comment? Plein d'amour. Encore? Gênez-vous pas. Hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Il n'y a pas de trappe. Il n'y a pas, plein de santé. Parfait. Un monde parfait. Pour beaucoup de monde, le monde que Dieu prépare, c'est un monde sans souffrance, parce qu'ils ont tellement souffert dans la vie. Mais Jean nous révèle quelque chose de bien plus profond. Le trésor de la nouvelle création, ce n'est pas seulement l'absence de mal. En fait, c'est la présence de Dieu lui-même. Jean entend de voix forte proclamer, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et le mot grec traduit par « habiter » et le même qui est utilisé au début de l'Évangile de Jean. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jean parle de Jésus, il dit quoi? « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » C'est le même mot. Littéralement, ça veut dire le mot « tabernaqué » qui veut dire « il a planté sa tente parmi nous. » Ce que Jésus a accompli temporairement pendant l'incarnation, Dieu va le réaliser de façon permanente, de façon permanente et universelle dans la nouvelle création. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la distance entre le ciel et la terre, là, entre Dieu et les hommes, sera abolie. Et ce n'est pas nous qui montons vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers nous. Parce que le but ultime de l'histoire de salut, ce n'est pas qu'on monte vers Dieu, c'est que Dieu descende vers nous. La nouvelle Jérusalem, l'Église glorifiée, descend du ciel. C'est un don. Ce n'est pas une construction humaine comme Babel. Vous savez, Babel, on voulait monter jusqu'à Dieu, mais c'était une réalisation impossible et orgueilleuse. Dieu sait qu'on est incapable de le rejoindre. Alors, il est descendu vers nous. Tout au long de la Bible, il y a le même fil conducteur qui se dessine, le désir ardent de Dieu d'habiter avec son peuple. Vous savez, on le voit même dans Genèse 3. Hein? Dieu marchait dans le jardin au moment de la brise du soir. On le voit aussi avec le peuple d'Israël dans le désert, dans Exode 25, où en parlant de la construction du tabernacle, Dieu va dire « qu'il me fasse un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ou dans Jean 1, le verbe fait chair, plante sa tente parmi nous. Et finalement, dans Apocalypse 21, le tabernacle définitif où le ciel et la terre ne font plus qu'un. Et ce passage marque l'aboutissement du récit du retour d'exil qui traverse l'Apocalypse. Comme Israël revenant de Babylone, l'Église va rentrer enfin dans sa véritable patrie. Maintenant, imaginez-vous retrouver un ami d'enfance après 40 ans de séparation. Les premières minutes sont étranges, non? Puis soudain, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et vous retrouvez immédiatement votre complicité d'autrefois. Ce n'est qu'un avant-goût. Dans la nouvelle création, nous rentrerons enfin chez nous et nous dirons, « Ah, oui, c'est ici que je devais être depuis le tout début. » Vous savez, au verset 22-23, Jean poursuit, il dit, « Je n'y vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que la présence de Dieu n'est plus confinée à un endroit. Elle est partout. Elle illumine toute chose de sa lumière. Et le mot « lumière », c'est un mot magnifique, que je vais vous parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Vous savez, le temple, les sacrifices, la loi, même le soleil et la lune, forme un échafaudage magnifique et nécessaire, mais qui pointe vers une réalité plus grande. Imaginez-vous quelqu'un qui fait un palais magnifique, mais pour faire ce palais-là, il met plein d'échafaudages alentour, mais que les gens sont tellement, ils disent, « Hey, c'est tellement des beaux échafaudages. Hein? C'est magnifique, il ne faudrait jamais les ôter, il faudrait les laisser là pour toujours. » Non, toutes les joies qu'on a dans cette vie pointent à Christ. Tous ces moments où on s'émerveille devant la nature, tous ces moments qu'on dit, j'aimerais tellement que le temps arrête. Un repas au restaurant, tu dis, waouh, c'est sublime. Un moment, je ne sais pas, dans une salle d'opéra, vous dites, on dirait que je suis au ciel. Tout ça, c'est seulement des pancartes. Tout ça, c'est seulement un échafaudage qui pointe vers quelque chose d'encore plus merveilleux qui s'en vient. Quand le bâtiment est achevé, on retire l'échafaudage pour admirer l'édifice lui-même. Et donc, la réalité ultime n'est ni un lieu, ni un rituel, c'est une personne, Dieu lui-même. Et le verset 23 fait écho à Isaïe 70-79, qui dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Vous savez, dans la première création, Dieu a fait des luminaires pour séparer la lumière des ténèbres, dans Genèse 1, 14 à 18. Et dans la nouvelle création, ces grands luminaires célestes-là deviennent superflus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. En passant, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la véritable lumière de Dieu, c'est elle qui va toutes nous éclairer. Et Jésus a déclaré, n'est-ce pas que Jésus a déclaré, « Je suis la lumière du monde. » Pour nous, ça parle de l'Évangile, mais c'est plus que ça. Parce que dans la nouvelle création, Jésus va être réellement la lumière de tout. Et cette vérité va s'accomplir pleinement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'ombre. Il n'y aura plus d'obscurité. Il n'y aura plus de nuit. seulement avec la lumière radieuse de Christ. Vous savez, dans 1 Jean 1,5, Jean écrit, « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Et cette promesse-là nous appelle à marcher à la lumière de Christ. Mais que signifie la lumière? Puis je vous pose la question. J'en ai parlé mercredi, là, mais j'avais de la misère à me contenir. Fait que peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, peut-être pas. D'après vous, ça veut dire quoi la lumière? Est-ce que c'est seulement quelque chose qui nous éclaire pour qu'on voit ce qu'on marche? Dans les Écritures, ça veut dire quoi la lumière? La lumière est toujours dans les Écritures l'emblème de la joie. Christ sera la joie de la nouvelle cité. Vous savez, les arpes d'or, c'est magnifique. Les palmes et les robes blanches qu'on va avoir, c'est magnifique. Mais nous, on va surtout se réjouir que c'est Christ qui nous les a données. Nous sommes appelés à être un peuple joyeux avec les yeux fixés sur lui. Une autre chose que la lumière signifie, c'est la transparence. Plus de cachettes, plus de masques, plus besoin d'en porter, tout est lumière. Vous savez, comme Adam et Ève avant la chute, qui étaient nus et n'en avaient point honte, la lumière de Dieu dissoudra notre besoin de nous cacher. Et une autre signification de la lumière, c'est la vérité. Vous savez, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura rien d'impur, ni personne qui pratique l'abomination ou le mensonge. La lumière expose et élimine toute fausseté. Maintenant, ça s'applique aujourd'hui. Venons quotidiennement à la lumière de Christ pour faire disparaître les ténèbres et les péchés dans notre vie. Vous savez, la meilleure façon de tomber dans nos anciens péchés, c'est de s'éloigner de la parole de Dieu, de s'éloigner du corps des croyants, de s'éloigner de la prière communautaire. Mais quand on vient à sa lumière, quand on s'expose à la lumière de Christ, les ténèbres disparaissent. Puis vous savez, des fois, là, puis Jésus, c'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Vous savez, il y a des fois que tu ne vois pas clair. Tu as besoin d'un ami pour te montrer la lumière. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement l'ami qui te montre la lumière, il est la lumière. Et une autre signification de la lumière, c'est la beauté. Vous savez, soyons honnêtes, la nuit, les choses sont toutes grises, hein? Non? En tout cas, le mien. La lumière est la source de toute beauté. Sans lumière, pas de beauté. La lumière ne révèle pas seulement, elle transfigure. Pensez-y un instant, elle ne fait pas que seulement révéler la beauté, elle transfigure, elle rend plus beau. Pensez à un vitrail, il n'y en a pas ici. Oui, il y en a là. Vous savez, un vitrail, là, pas de lumière, c'est du verre coloré. Hein? Mais quand la lumière la traverse, elle devient une œuvre d'art éblouissante. Toute notre beauté vient de la lumière du Père et du Fils. La gloire de Dieu fera de nous des porteurs de lumière. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la nouvelle création. Aujourd'hui même, si vous vous exposez à la lumière de Christ, vous devenez un porteur de lumière. Et une autre signification de la lumière, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que l'ignorance est ténèbre. Et dans le siècle à venir, nous ne verrons plus au moyen d'un miroir obscur. Dans cette vie-là, on voit au travers des miroirs obscurs. Mais dans la prochaine, on va voir parfaitement à travers la lumière de Christ. Christ est la source de toute notre connaissance. Et juste là-dessus, on aurait pu faire un message, mais vous savez, quand on va rencontrer Christ, juste dans les 5 premières minutes qu'on va rencontrer Christ, dans la nouvelle création, on va en connaître plus sur lui que pendant toute notre vie à marcher pour lui. Mais ceci étant dit, d'ici ce moment-là, marchons dans la lumière de sa parole pour apprendre à le connaître davantage. Et dernièrement, c'est la manifestation. Vous savez, le peuple de Dieu actuellement est un peuple caché. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement en Dieu. Oui, vous en avez des aperçus. Oui, dans les prédications, oui, dans la parole, même dans les études bibliques, on essaie de vous parler de votre identité en Christ. Mais elle reste encore cachée. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On ne sait pas encore qui on est réellement. Mais Christ est le grand révélateur. Il va nous transformer à l'image de sa gloire manifestée. Et d'ici là, marchons d'une manière digne de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés aussi à être. Imaginez que vous êtes loin d'un être cher. Vous avez des photos, des lettres et des souvenirs de cette personne-là. Et pour vous, ces photos-là, c'est des choses précieuses. Vous les regardez constamment. Vous lisez les lettres constamment. Mais un jour, l'être cher revient de son pays éloigné. Est-ce que vous allez continuer à regarder vos photos? Non, vous allez lui sauter dans les bras. Le temple, le soleil, la lune, ce sont des photos de la gloire de Dieu. Mais dans la nouvelle création, nous allons avoir la personne elle-même de Jésus-Christ. Et ça m'amène au dernier point. Comment pouvons-nous avoir accès à cette nouvelle création-là, à la cité de Dieu, en répondant à l'appel de Dieu? Qui est l'invitation ultime, un salut gratuit et accessible à tous. Vous savez, la vision se termine par un appel, une invitation de Dieu, que Dieu nous adresse. Et celui qui est assis sur le trône lui-même prend la parole. Tu sais, des fois, c'est un ange qui parle. Tu te dis, OK, ça peut être Christ. Là, c'est Dieu lui-même sur son trône qui parle. Il va dire quelque chose de merveilleux. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il écrit, puis il ajoute, écrit car ses paroles sont certaines et véritables. Et donc, Dieu, pour dissiper tout doute, il va se présenter. Savez-vous qui je suis? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça, c'est la garantie divine que ce qu'il a promis va arriver. Celui qui a commencé l'histoire l'amènera à son terme. Et dans notre vie, celui qui a commencé une bonne œuvre dans notre vie va la terminer. La promesse, ce n'est pas un peut-être, mais peut-être. Non, mais un c'est fait. Vous remarquez, il dit, je fais toutes choses nouvelles, ce n'est pas au futur. Parce qu'il peut commencer tout de suite à la fin dans ta vie si tu l'accueilles dans ta vie. Alors, comment obtenir cette vie éternelle? Comment entrer dans la ville? Il n'est pas dit à celui qui travaille dur. Ou à celui qui est assez bon. Non, c'est écrit à celui qui a soif. Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, au verset 6. C'est quoi l'unique condition? C'est d'avoir soif. C'est d'admettre son besoin. C'est de reconnaître sa faillite spirituelle. C'est d'arrêter d'essayer de creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau et de venir à la seule source d'eau qui peut réellement étancher notre foi, notre soif existentielle. Et c'est quoi l'eau de la vie? C'est la vie éternelle. Et c'est quoi le prix? C'est gratuit. Le salut ne s'achète pas. Il ne se mérite pas. Il se reçoit comme un don. Vous savez, dans le système de Babylone et de la bête, tout s'achète et tout se vend. Soyons honnêtes, dans le monde qu'on est, là, tout est transactionnel. Je m'intéresse à toi tant que tu me rapportes quelque chose. Mais la journée que tu deviens un petit peu un poids sur ma vie, écoute, j'ai d'autres choses à faire, moi. J'ai pas le temps, là. Tout dans ce monde est transactionnel. Si mon boss n'a plus besoin de moi, là, il ne me gardera pas juste parce que je suis un bon gars. Non, il y en a un autre qui attend derrière. Là. Puis moi, j'ai mon bonus à la fin d'année. Là. Vous me suivez? Dans ce monde-là, tu as bien beau aller au Best Buy et dire, hey, écoute, la TV est vraiment belle, j'aimerais l'avoir. Il dit, hey, pas d'argent, pas de bonbons. Dans ce monde, même dans les couples, même dans nos relations humaines, tout s'ajoute et tout se vend. C'est triste. Écoutez, regardez les réseaux sociaux, regardez les TikTok de ce monde. Les gens sont prêts à faire des folies pour avoir un peu d'attention parce que tout s'ajoute. Et tout se vend. Dans ce monde, tout est transactionnel, mais pas dans le royaume de Dieu, parce que la chose la plus précieuse, c'est la vie éternelle, et elle se reçoit gratuitement. Voyez-vous comment ce n'est pas le même monde? Comment dans le monde, il faut que tu agites l'attention des gens. Il faut que tu aies quelque chose à offrir, sinon tu ne vaux rien. Puis là, Jésus-Christ se dit, non, viens à moi, j'ai tout payé pour toi. Vous savez, dans les déserts du monde ancien, une source d'eau était la différence entre la vie et la mort. Nous, on n'a pas ça ici, parce que quand il neige, il y en a plein d'eau. Mais dans un désert, là, où il n'y a pas d'eau, qui fait 50 sec, là, quand tu ne trouves pas d'eau, tu risques de mourir. Là. Un homme perdu dans le désert est prêt à tout donner ce qu'il possède pour un verre d'eau. Mais s'il n'a rien sur lui, qu'a-t-il à offrir? Rien. Il ne peut que tendre la main et recevoir. Et l'appel de Christ pour vous, là, c'est pas compliqué, c'est ouvre ta main et je vais te donner de l'eau de la vie. Le salut est gratuit parce que Christ a payé le prix à notre place. Et donc, on était en exil à cause de nos péchés. Mais Jésus a été exilé du ciel pour nous. Il a quitté son véritable domicile, Philippiens 2. Il a erré son domicile fixe, Matthieu 8, 20. Il a finalement été crucifié à l'extérieur de l'ancienne Jérusalem. Signe d'exil et de rejet, Hébreux 13, 11 à 12. Et sur la croix, il va s'écrier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que Jésus a vécu l'ultime exil et abandon. Il a été chassé de la famille céleste afin que nous puissions être amenés dans la maison du Père, la Nouvelle Jérusalem. Sur la croix, Jésus a subi la soif ultime. Il a subi la mort éternelle à notre place, mourant de la soif spirituelle causée par la séparation éternelle avec Dieu, afin que nous recevions gratuitement l'eau de la vie éternelle. Et donc, sur la croix, battu, cloué et mourant de soif, Jésus a déclaré quoi? Tout est accompli. J'ai vécu la vie parfaite à ta place. Et maintenant, je subis la mort éternelle à ta place. Et parce que Jésus a subi la soif sur la croix et qu'il en est mort, quand je crois en lui, je reçois une eau qui me donne la vie éternelle. Et ce n'est pas une eau qui s'assèche. C'est une eau qui jaillit pour la vie éternelle. L'invitation s'accompagne d'un choix, verset 7. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Est-ce que ça ne contredit pas la gratuité? Pas du tout. Parce que dans l'Apocalypse, vaincre, savez-vous qu'est-ce que ça signifie, vaincre? Ça ne signifie pas de remporter la victoire par nos propres forces. Ça signifie persévérer dans la foi, rester fidèle à l'agneau même quand c'est difficile, refuser de se compromettre avec l'idolâtrie du monde. Et donc, on ne vainc pas par nos propres forces, mais en nous accrochant à celui qui a déjà obtenu la victoire décisive, Apocalypse 5, 5. La victoire n'est pas la condition de l'héritage, c'est la preuve que nous sommes déjà héritiers. Et quel est cet héritage? C'est la promesse la plus intime de toute la Bible. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça veut dire, mesdames, peut-être que vous sentez que la société ne vous honore pas à votre juste valeur, mais Dieu vous dit, moi je te traite comme un fils, tu as les mêmes avantages, comme mon fils à moi, Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? En conclusion, cette vision de la Nouvelle Jérusalem et notre avenir est que notre avenir est assuré en Christ. Ce n'est pas seulement pour le futur. Tu sais, des fois, tu dis, ah, j'ai tellement hâte. Oui, non, c'est maintenant qu'on peut l'expérimenter. C'est une espérance qui nous ancre au milieu des tempêtes de la vie. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire là, que même s'il y a les pires tempêtes, moi, je ne bouge pas. Pas par mes propres forces, mais parce que lui, il est mon ancre solide. Quand les larmes coulent, nous savons qu'un jour, la même main, que la main même de Dieu séchera nos larmes. C'est aussi une réalité qui nous soutient. La présence de Dieu n'est pas seulement pour le futur. En Christ, par son esprit, il a dressé sa tente en nous. Nous avons un avant-goût du ciel. C'est aussi une invitation qui nous presse. Avez-vous soif aujourd'hui de lui? Soif de pardon, soif de guérison, soif de paix, soif de sens. La source est ouverte. Jésus dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ne tournons pas le dos à une si grande grâce. Venez à l'agneau, buvez à la source et commencez à vivre dès aujourd'hui dans l'espérance ultime et certaine du jour où il fera véritablement pour vous, pour moi et pour toute la création, toute chose nouvelle. Amen. Alors merci Seigneur pour ta parole.